Radio Kenny, la plus rebelle des radios. That boy you call is a diamond fella. All your little ways of a comedy of errors. You fellow, but your fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello. You, what are you gonna do? Little boys get tame like the shoe. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capular, you're monarchy, I ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, but until you see me. As for me, all's well that ends well. Your boy is like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not too near. I don't know about tomorrow.
Bonsoir.
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 Nous sommes le mercredi 4 février, il est 19h passé de 3 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Au sommaire ce soir, en Ukraine, la guerre s'enracine.
Ensuite, toujours plus d'expulsions pour les Roms.
Transition écologique.
Ensuite, un détenu se suicide au Vinatier.
La chronique de Laurent Delabouze.
Ensuite, un braquage d'un camion de la Poste.
La forte hausse des actes islamophobes.
On va parler du Japon qui relancerait son armée.
Et puis la chronique numérique.
Et ensuite, on finira traditionnellement ce Canu Info par la rubrique « Il faut que ça se sache ».
Et malheureusement, l'Ukraine, la guerre s'enracine, c'est l'escalade où les violences se poursuivent. Les indépendantistes ont annoncé vouloir mobiliser jusqu'à 100 000 hommes pour pousser leur avantage, alors que Kiev compte vouloir recevoir des livraisons d'armes de la part des États-Unis et de l'OTAN. Vous imaginez un peu. Du coup, ce mercredi encore, des bombes sont tombées près d'un hôpital de la ville de Donetsk, tuant au moins 3 passants. Et les affrontements les plus violents se déroulaient ces derniers jours près de la ville de Delbatsev, important nœud ferroviaire situé à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Donetsk. Les insurgés tentent depuis plus d'une semaine d'y encercler l'armée ukrainienne et les séparatistes cependant progressent et ont considérablement gagné du terrain par rapport à la ligne de partage établie dans les premiers accords de paix en septembre. Et signe de l'ampleur que prend le conflit, les séparatistes ont décrété une mobilisation générale prenant effet dans 10 jours de 100 000 habitants des régions de l'est du pays. Donc ça fait que augmenter. La semaine dernière, les insurgés avaient menacé, en cas d'échec de ces négociations, d'élargir leur offensive à l'intégralité des régions de Donetsk, de Lugansk, dont une grande partie est toujours contrôlée par les autorités de Kiev. Et le dirigeant séparatiste Alexandre Zakharatchenko s'est dans le même temps dit prêt à arrêter l'offensive à la seule condition de pouvoir conserver les nouveaux territoires conquis. Il est pas fou. Sauf que, donc, deuxième élément, l'OTAN envisage de livrer des armes. Signe de la progression des séparatistes, donc le commandement militaire de l'OTAN et des responsables du gouvernement américain se sont dit prêts à soutenir l'envoi d'armes défensives létales aux forces ukrainiennes. Donc les discussions ne porteront que sur des armes défensives, a révélé The Wall Street Journal, selon qui Washington étudie la possibilité de fournir à Kiev de puissants missiles anti-chars Javelin, des armes légères et des munitions. Ce qui n'est pas rien. Ouais. Les opinions sur le sujet au sein du gouvernement américain ont mûri, compte tenu de l'appui qu'apporte la Russie aux rebelles dans l'Est et des violations répétées des accords de cessez-le-feu de septembre dernier, confirme un responsable militaire américain. Donc, forcément, ça plaît au gouvernement de Kiev, que les États-Unis et l'OTAN s'y mettent, mais qui serait une étape de plus franchie vers la guerre totale. Parce que quand même, ça sentait déjà la guerre froide, mais bon, c'est d'autres enjeux et ça le sent encore plus. Et les autorités de Kiev ont par ailleurs annoncé mardi des mesures visant à considérablement limiter l'accès à l'Ukraine des ressortissants russes qui ne pourront plus, à compter du 1er mars, utiliser leur passeport intérieur, équivalent en Russie d'une carte d'identité, pour y voyager. Donc tout se resserre, tout s'enracine.
«
Alors, eh ben, pour les Roms, comme sur bien d'autres sujets, peu importe la couleur politique du gouvernement, ils ramassent pareil, voire pire. Alors, selon un rapport de l'European Roma Rights Center, l'ERRC, et la Ligue des Droits de l'Homme, la LDH, je vous dis des abréviations parce que c'est possible que je les redise plus tard, sur 2014, 13 483 personnes vivant dans les bidonvilles ont été expulsées de leurs habitations. Alors, le rythme des expulsions de camps est également impressionnant puisque sur cette année 2014, un bidonville était expulsé tous les 3 jours en France. Ouf, ça fait une sacrée moyenne.
C'est clair.
Pour la LDH, en 2014, 80% de la population vivait en bidonville et 80% de la population vivant en bidonville, pardon, a été expulsée. Pour arriver à ce pourcentage, ils ont pris les chiffres de la DIAL. Alors la DIAL, c'est la délégation interministérielle à l'habitat et au logement, qui estime à 17 457 personnes vivant en bidonville. Alors c'est sûr que quand on les compare aux 13 483 personnes expulsées, c'est énorme. Alors vous faites gaffe à un truc quand je dis 13 400 et quelques personnes expulsées, il y a... Enfin, je veux dire, si une personne a été expulsée 2 fois, elle a été comptée 2 fois.
Ah oui.
Parce que
oui, bah, ça mérite.
Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est, quand on dit personne, c'est un peu un abus de langage, mais voilà, vous aurez compris. Et alors, l'autre truc que montre ce rapport, c'est qu'on n'expulse pas de la même manière suivant les régions. Alors, l'endroit le plus tendu pour les habitants des bidonvilles est l'Île-de-France. Elle représente à elle seule 67% des expulsions, alors qu'elle ne regroupe que 47% des personnes vivant en bidonville. Bon, ça fait beaucoup de pourcentages, mais ça va continuer, accrochez-vous. En Rhône-Alpes, la situation est aussi assez tendue pour les Roms, puisque 17% des expulsions y ont lieu, alors que seulement 7% de la population des bidonvilles, alors là, c'est de la population des bidonvilles en France, y vit. Soit, en gros, 1200 personnes. Enfin, du coup, à comparer du battage médiatique de Gérard Collomb et c'est pas le seul, quoi, de tous les élus qui nous font chier là-dessus, ça représente, enfin, le problème avec des guillemets, d'après eux, là, c'est 1200 personnes.
Oui, c'est vrai que Lyon, on est souvent champion pour des trucs comme ça.
Oui, c'est vrai. Et avec un maire du Parti Socialiste. Dans les pays de la Loire, pardon, à l'inverse, les expulsions représentent il représente 1,8%, alors que contrairement à la région de Rhône-Alpes, 8% de la population vivant en bidonville s'y trouve. Ensuite, dans ce rapport, les associations dénoncent des promesses de campagne non tenues. Bon, ça fallait quand même avoir une bonne dose de naïveté pour y croire. Mais ils comparent également la France aux autres pays européens, comme par exemple l'Italie, où il y a 40 000 personnes vivant dans les bidonvilles, et où seulement 56 campements ont été évacués. Ces campements qui accueillaient entre 25 et 30 personnes. En proportion, rien à voir avec les campements, beaucoup de campements en France qui accueillent plutôt des centaines, voire plusieurs centaines de personnes, parce qu'à force de se faire expulser ou expulser, ça fait que les gens se concentrent dans un seul endroit. Bon, il y en a aussi des plus petits. Hein, mais... En Espagne, de ce que dit le rapport, a priori, la pratique, il n'y a pas vraiment de pratique d'évacuation de campements. Bon, alors, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pas réussi à trouver d'autres infos contradictoires, mais j'imagine quand même que le gouvernement espagnol et le gouvernement italien ne laissent pas s'implanter, comme c'est pas des gauchistes a priori qui sont au pouvoir ni en Italie ni en Espagne. Alors je sais pas c'est quoi leur manière de répression, mais on doute qu'il n'y en ait pas quand même. Autre point encore dénoncé par les associations, le fait que les autorités contournent de plus en plus la justice pour procéder aux expulsions. Alors déjà que la justice était quand même bien plus clémente avec les propriétaires qu'avec les occupants, mais a priori, à leurs yeux, l'expulsion immédiate prononcée la plupart du temps par les tribunaux était déjà beaucoup trop laxiste. Alors les municipalités utilisent de plus en plus des arrêtés municipaux pour procéder à l'expulsion, comme ça pas de procès, et on supprime aux habitants de ces camps le minuscule délai qu'il existait entre le lancement de la procédure, le procès et le rendu.
Oui, laisse faire les groupes de citoyens locaux pour...
Comme à Calais, par exemple.
C'est pour ça. Solutionner, ou à Marseille, ouais. Où il y a eu des maisons brûlées, tout ça.
Tout à fait, avec des élus, comme par exemple à Marseille, qui jettent de l'huile sur le feu directement, en disant, oui, mais c'est vrai qu'on comprend, moi, j'aimerais pas vivre à côté d'un camp de Rome. Les associations ajoutent, pour finir, que les expulsions continuent à réduire à néant la scolarisation, le travail social, les soins médicaux et la recherche d'emploi des habitants des bidonvilles, la politique d'expulsion entrave tous les efforts d'intégration, elle accroît la vulnérabilité des Roms et les marginalise toujours plus. C'est vrai qu'après, on pourrait presque croire que c'est une volonté du gouvernement.
On va parler d'écologie puisque Manuel Valls et Ségolène Royal ont présenté la feuille de route du gouvernement pour hâter la transition écologique aujourd'hui. Hâter la transition écologique. Et alors, c'est une transition qui rime avant tout avec économie, donc de l'écologie économique, et surtout très hypocrite. Et je voudrais d'abord rappeler quand même quelque chose, parce que cette transition écologique, le plan phare est du coup de je vais revenir, mais de remplacer les voitures et pour passer à en tout électrique. Voilà ce que c'est la transition écologique à la française. Mais quand même, je voulais rappeler qu'en janvier, notre cher ministre de l'écologie, Ségolène Royal, donc promouvait le nucléaire et appelait à sa relance. Et donc elle se mettait à dos à ce moment-là l'Allemagne et le plan des primaires qui programmait de ramener le nucléaire à une énergie d'appoint et même en sortir à échéance de 40 ans maximum. Alors ça c'était dans le programme dont le PS... avec lequel le PS s'est fait élire. Et le 14 janvier, elle déclarait « Il faut programmer la construction d'une nouvelle génération de réacteurs qui prendront la place des anciennes centrales lorsque celles-ci ne pourront plus être rénovées. » Donc, en gros, elle assumait clairement que le nucléaire resterait l'énergie dans 98% de l'énergie française. Et sinon, dans cette transition écologique d'aujourd'hui, pourquoi Valls et Royal font autant les faux culs en matière d'écologie? Parce qu'ils sont obligés, puisque Paris doit accueillir en décembre le COP21, la conférence internationale sur le climat, censée accoucher d'un accord mondial sur le réchauffement climatique, ce qui est pas rien, et se montrer exemplaire en matière d'écologie semble donc un impératif minimal pour le pays hôte. Logique. Donc, je vais vous dire ce qu'aujourd'hui elle a sorti comme vrai plan écologique. C'est beaucoup. Voilà. Donc, la première, c'est toujours plus de voitures, les diesels à la casse, booster l'économie française en misant sur les voitures électriques. Donc l'objectif, la disparition de ce carburant qui alimente plus de 60% du parc automobile français, dont la suppression des diesels d'avant 2005. Retour de ce qui était appelé avant la pastille verte, sauf que toutes les voitures avait eu la pastille verte, donc ça faisait plus de sens, mais qui offrira certains avantages urbains, dont le stationnement gratuit à des endroits, le droit d'emprunter les couloirs de bus, le droit de circuler les jours où il y a pic de pollution. Ben, toi, tu auras le droit de prendre ta voiture, c'est génial pour le pic de pollution. Mais bon. Donc voilà, et sinon, des aides financières pour aider à la conversion. Elle explique qu'une aide financière de 10 000 euros sera mise en place dès avril pour l'achat d'un véhicule électrique, et 6 500 euros pour l'achat d'une hybride rechargeable. Donc ce coup de pouce est un engagement seulement pour cette année. Sinon, les méthodes à la mode, c'est l'exemplarité des ministres. Donc, elle a dit, il faut que nous tous, tous les ministères, nous roulions avec des véhicules électriques, que nous apprenions à maîtriser nos déchets, à manger bio et à faire des économies d'énergie. Elle a insisté, Ségolène, là-dessus, en regardant ses ministres. Et apparemment, pour la petite anecdote, elle a demandé à une personne d'aller éteindre la salle d'à côté pour montrer que les ministres devaient être exemplaires pour l'écologie. Et ça va changer le monde, hein, vraiment, que nos ministres ça va vraiment nous soutenir de savoir qu'ils mangent bio. Ça.
Puis, je sais pas si le fait qu'ils bossent dans le noir, ça va vraiment changer au résultat.
Et sinon, pour rassurer les parents, important, du verre à l'école et dans les cantines. Donc, sensibiliser les écoliers aux enjeux du développement durable et une semaine pour le climat sera imposée à tous les établissements par an. L'implantation de zones vertes, alors des mares, des potagers, sera par ailleurs fortement encouragée dans les écoles. Ce qui est pas plus mal, je pense qu'il faudra faire une nouvelle aire de jeu aux gamins, donc pourquoi pas ça. Et la cantine, là actuellement seulement 2% des denrées à consommer y sont bio, alors que l'objectif de 20% des aliments date du Grenelle de l'environnement, donc 2008. On peut voir qu'entre 2008 et 2014, les gouvernements avaient mis l'enjeu là-dessus, puisque c'est resté seulement à 2%. Et la quatrième mesure est pour sauver les abeilles, et donc, non, bah, entre autres pour sauver les abeilles, c'est tout un truc autour des pesticides, et c'est pour annoncer qu'elle va demander à l'Europe de réévaluer les impacts des substances néonicotinoïdes, je suis pas très bon en physique, sur les abeilles. Voilà, et il y a d'autres mesures, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà, l'écologie à la française, c'est finalement le nucléaire.
Pardon. Alors, vendredi dernier, un détenu s'est suicidé à l'UHSA du Vinatier. Alors, l'UHSA, c'est pour unité hospitalière spécialement aménagée. Alors ça, c'est un terme très 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 poli pour dire hôpital-prison. Alors, cet homme de 32 ans s'est pendu à l'aide d'une cordelette de jogging. Il était initialement en détention provisoire à la prison de Corba. Oui, parce que c'est ça, quand on parle d'hôpital-prison, c'est pas juste pour dire que l'hôpital psychiatrique à des moments craint vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment des prisonniers qui vont dans cet hôpital psychiatrique. Alors, c'est le troisième suicide depuis la création de cette unité spéciale du Vinatier en 2010. Il s'agissait à l'époque de la première unité de ce type. Beaucoup de monde, dont les professionnels de la santé, avaient dénoncé l'ouverture de cet hôpital-prison. Aujourd'hui, il existe 9 UHSA en France et 8 autres devraient être construits pour un total de 705 places. Alors, ces unités sont sous le contrôle, et c'est important de le signaler, ils sont sous contrôle de l'administration pénitentiaire. Du coup, les médecins situent un tout petit peu, enfin, en tout cas, les soignants situent en dessous de l'administration pénitentiaire. À l'époque de la mobilisation contre cette construction, les professionnels dénonçaient le retour de l'amalgame entre malades et délinquants. Et du danger de mélanger la psychiatrie et la répression, ça, voilà. Voilà. Alors, pour revenir à ce détenu, sa famille a décidé de porter plainte contre X pour qu'une enquête soit menée. Non, on n'a toujours pas de générique.
Ok, bon, c'est parti.
Mais pourquoi ?
Mais parce qu'on n'a pas réussi à le récupérer, parce qu'on a perdu tous nos génériques, tout ça, tout ça.
Ah mince.
Il a été saisi.
Alors, non, on va faire une petite présentation. Non, maintenant c'est la chronique de Laurent Delabouze.
Eh ben, merci beaucoup. Alors bonjour, cette semaine, entre le procès du Carlton de Lille et celui sur les abus de faiblesse de Mamie Zinzin, l'actualité politico-judiciaire est chargée. Tout comme devrait l'être le fusil dans le bras vengeur d'une justice aveugle et sans pitié. Bon, on connaît la justice française, ils sont ni pauvres ni musulmans, il serait donc déjà inespéré que DSK, François-Marie Bagné ou Éric Woerth, tous ces bêtes en cour, se prennent le moindre petit coup de barreau.
Oh, joli.
J'enchaîne dans ce cas. En tout cas, ce qu'on remarque après avoir vu les images de Strauss-Kahn au tribunal, c'est que malgré tout ce que l'ancien président du FMI lui a fait subir, la Grèce ne lui en veut pas. En effet, elle l'entoure généreusement, que ce soit au niveau des joues ou de la ceinture abdominale. Bon, allez. autant continuer. De toute manière, on n'a pas encore le verdict. Laissons donc pour l'instant DSK avec son ami Dodo La Saumure mariner dans leur jus. Je vais plutôt parler d'un autre Macron. Emmanuel Macron. Macron, si vous préférez. Actuellement, on entend beaucoup parler de sa loi, surtout des volets qui concernent le secret des affaires et les réformes sur le notariat. Il faut dire qu'en ce qui concerne ces deux aspects, le commun des mortels, c'est-à-dire nous, on n'en a rien à battre. Pourtant, la révolte des notaires sur la partie de la loi qui les concerne se doit d'être saluée. Malgré leur petit nombre, leur inventivité et leur radicalité de mobilisation ont réussi à faire plier le jeune Picsou du gouvernement. Alors, ils ont notamment fait plein de petits films rigolos et estampillés « Fallait pas nous chercher production », dans lesquels on peut voir des phrases comme « Ta loi, non Bercy », ou encore...
Oh, oh. Putain, elle est de toi celle-là, non ?
Non, c'est eux, c'est eux. Ouais, merci de me comparer au notaire. Ou encore, un notaire corse tenant une pancarte sur laquelle on peut lire « Titulaire permis de chasse pour plume battue Macron ». Plasticage possible.
Ah ouais, pas mal.
Ah ouais.
Il a été arrêté pour apologie du terrorisme.
Et puis.
Je crois pas, non.
Et puis Macron et son collègue auraient reçu une pelletée de lettres de menaces de mort. Cependant, cette loi contient d'autres mesures qui nous concernent tous. Enfin, surtout moi, parce que vous ne travaillez pas, mais. Il y a par exemple, seule chose dont on a un petit peu entendu parler, une plus grande facilité pour les entreprises à mettre en place le travail du dimanche. Mais aussi une réforme des prud'hommes qui aboutirait à de plus faibles possibilités de défense pour les salariés. Et encore, l'affaiblissement de la peine encourue pour les dirigeants d'entreprise lors d'entraves à l'exercice du droit syndical. La sanction prévue ne deviendrait plus qu'une petite amende qu'un patron n'aurait aucun mal à payer. Enfin, je vous épargne la partie sur les postiers, contentieux personnel. Ceux qui restent après les vagues de restructuration et de licenciement devront faire passer le permis aux apprentis, puisque, bien sûr, avec leur salaire de ministre, ils n'ont rien d'autre à foutre. Bon, certaines fois, on se demande où ils vont chercher leurs idées. On se dit qu'il y aura un sacré travail de prévention anti-drogue à faire dans les cabinets ministériels. Voilà donc pour ce qui nous touche, nous. Les notaires se sont bougés, organisés, et ils ont fait plier. Alors permettez-moi de dire, et vous avez remarqué que j'apprécie le jeu de mots, que maintenant, les balles sont dans notre camp. Et pendant ce temps-là, notre ennemi de la finance nationale continue son petit bonhomme de chemin. Ce qui ne se fait pas sans embûche. Et oui, François Hollande a notamment perdu, ce 1er février, sa taxe à 75% pour les plus hauts revenus. Certaines mauvaises langues diront qu'il l'a abandonné. Toujours est-il que, finalement, ça n'est peut-être pas un mal, vu qu'il aura duré 2 ans, concerné seulement 1000 personnes en France, et que c'est les entreprises qui ont payé à leur place, c'est-à-dire au final les salariés. Ce que François Hollande a perdu aussi, et certaines mauvaises langues diront qu'elle l'a abandonné, c'est sa délégation française avec laquelle il était parti en Arabie Saoudite pour présenter ses condoléances après la mort du roi. Pendant que la délégation française cherchait le président dans le grand palais de Riyad, elle a croisé par exemple David Cameron avec la délégation britannique, qui ont dû, je pense, bien se foutre de leur gueule. Alors que François Hollande, apparemment complètement paumé, a atterri dans une salle du palais avec le président de Djibouti. Complètement perdu à tel point qu'il lui aurait demandé, bon là c'est plus une source sûre, hein, mais il lui aurait demandé, l'Arabie c'est où dites ? Et l'autre lui aurait répondu, c'est par là mec. Bon, malheureusement, à droite, tout le monde ne fait pas de blagues aussi rigolotes. En effet, ce lundi 2 février, Nathalie Kosciusko-Morizet, numéro 2 de l'UMP, qui a par ailleurs montré qu'il fallait bien faire la distinction entre l'UMP et le Front National, en prônant le vote pour le candidat PS dans le Doubs afin de faire barrage au candidat d'extrême droite, et ça a été une des rares à l'UMP à le faire, et bien parallèlement, elle déclarait ce lundi sur BFM TV que le maire de Mulhouse, un de ses amis personnels, lui a confié que des dizaines d'enfants arrivaient en retard tous les jours à l'école parce que leurs parents les emmenaient faire la prière avant. Et qu'il fallait donc poser la question du placement des enfants. Gageons qu'elle a sûrement eu cette idée en prenant le petit déjeuner avec Jean-François Copé qui avait dû ramener des pains au chocolat. Effectivement, après vérification auprès du dit maire, il ne s'agirait en fait que de très peu d'enfants et que ce n'est pas les parents qui leur font faire la prière, mais simplement qu'ils vont parfois assister à la prière avant et qu'ils reviennent après pour emmener leurs enfants à l'école. Alors, à quand le prochain responsable UMP qui va nous annoncer qu'il a découvert que les retards SNCF étaient causés par les musulmans qui font leurs prières sur les rails avant d'aller au travail ? Pour finir, je voulais faire un point sur Philippe Martinez, le nouveau patron de la CGT qui vient d'être élu. Il y a actuellement assez peu d'informations sur lui, étant donné que la centrale syndicale a, ces derniers temps, tendance à se méfier des médias. Apparemment... Depuis Thierry Le Pen, les choses ont changé. La CGT met maintenant un point d'honneur à ce que les affaires internes ne filtrent plus dans la presse. Par contre, en ce qui concerne les frais exorbitants de rénovation d'appartements ou de bureaux des chefs et les salaires démesurés de leurs collaborateurs, on garde visiblement la même politique. Philippe Martinez s'était d'ailleurs déjà installé dans le bureau flambant neuf de son prédécesseur avant même les résultats de l'élection. Pourtant, tout n'était pas joué d'avance. Il fallait y mettre du sien pour arriver à tripoter le pot à stylo en or massif. On sait par exemple que sa compagne, Nathalie Giamocipi, responsable de la Fédération de la Santé, a décidé de voter pour lui en totale contradiction avec le mandat qui lui avait été confié. Ce qu'on sait d'autre sur Philippe Martinez, c'est ce que nous décrit un ancien délégué syndical. C'est un garçon sympathique, très communicant, avec qui il est facile de discuter et qui n'exprime jamais de colère vis-à-vis de ses concurrents. C'est de bon augure, surtout lorsque l'on apprend que cet ancien délégué syndical faisait partie de la CGC, Confédération Générale des Cadres. Et puis, un autre responsable syndical qu'il a beaucoup fréquenté explique qu'il lui est reconnaissant d'avoir calmé ses troupes dans certains conflits, comme à PSA Aulnay, et en conclut donc qu'avec lui, la CGT ne basculera pas dans la radicalité. Alors, camarades travailleurs, si nous devons parfois intégrer les centrales syndicales pour faire partie des mouvements ouvriers, méfions-nous des systèmes de permanents, de hiérarchie qui poussent à l'autoritarisme et à la trahison. Qu'ils soient bleus, orange ou noirs, notre ennemi, c'est le pouvoir. Organisons-nous de manière autonome ou à l'intérieur de ces mouvements pour les faire exploser. Levons-nous ou bien restons assis, comme le fit Rosa Parks, dont c'est l'anniversaire de la mort aujourd'hui.
Deux personnes ont braqué un camion de la Poste, hein, on continue sur la lignée, à Brie-Comte-Robert. Alors, c'est pas très très loin de Paris. Ce camion ne contenait pas vos colis, je vous rassure, mais il était rempli de timbres et d'enveloppes pré-timbrées. Alors, les braqueurs ont garé un camion devant celui de la Poste, ont forcé le conducteur à descendre et ont vidé l'intérieur de son camion dans le leur. Ils n'ont malheureusement pour eux pas pu prendre toute la cargaison, mais en ont quand même pour au moins, et là vous allez être étonné un peu de la valeur quand même, pour 20 millions d'euros de marchandises, voire 40 millions suivant les estimations. Il y a eu une première estimation à 20 millions et ça pourrait s'élever jusqu'à 40 millions. Les calculs n'ont pas été faits de tout ce qui a été volé. Ouais, c'est pas mal hein, quand même. Alors, le chauffeur n'a pas été violenté et juste avant de partir, les braqueurs ont aspergé la cabine et l'arrière du camion de la Poste avec un extincteur pour rendre le travail de la police scientifique impossible et les empêcher de relever toute trace ADN. Alors bon, petit bémol, ou pas, hein, ça se trouve il y avait tout prévu, mais en tout cas, certes, la valeur du butin est assez impressionnante, mais quand même, il risque de mettre un bon moment avant de tout pouvoir écouler comme ça, parce que c'est quand même difficilement imaginable qu'il y ait des gros acheteurs de timbres et d'enveloppes en masse, du coup c'est quand même possible qu'il les refile à droite à gauche petit à petit. Mais bon, en tout cas, ça risque de faire un bon petit pécule de temps en temps pour eux, quoi. Ensuite, les... c'est quoi que je dois dire maintenant ? Ah, ça y est, pardon. Alors, selon l'Observatoire national contre l'islamophobie, il y aurait eu, en France, donc, 147 actes anti-musulmans depuis les attentats de Charlie Hebdo. Alors, à l'heure actuelle, là, c'est déjà plus que le nombre répertorié sur toute l'année 2014. Ces 147 actes sont recensés juste sur la période entre le 7 et le 31 janvier. C'est quand même assez énorme. Sur ce total, il y aurait 35 actions. Alors ça, c'est le classement de l'Observatoire national contre l'islamophobie. Alors par 35 actions, par exemple, il y a les tirs contre des mosquées notamment, et 112 menaces. Et là-dedans, il y a insultes, inscriptions, on tag sur les mosquées et slogans nazis. Sur ce bilan, il faudra rajouter plus tard les chiffres de Paris et sa région, car la préfecture de police communique ces chiffres avec plus de décalage. Du coup, ça va, à mon avis, bien augmenter quand même. Et dans ce calcul-là, n'ont pas été pris en compte également 38 autres actes islamophobes où les victimes n'ont pas voulu porter plainte.
Allez. Alors, le Japon voudrait relancer son armée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu l'annonce de la décapitation d'un deuxième otage, le journaliste Kenji Goto, qui a été mis en ligne ce week-end là, donc décapitation par l'EI par Daesh. Et donc, ce qui fait que les Japonais sont pas mal sous le choc et la presse japonaise se pose beaucoup de questions. Certains à droite veulent remuscler une armée qui n'a plus le droit d'intervenir à l'étranger depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'autres, plus à gauche, continuent à préconiser une ligne pacifiste. En tous les cas, redire, le Premier ministre Shinzo Abe voudrait assouplir la loi, parce que ce qui se passe, c'est que depuis 45 et la défaite cuisante donc des Japonais, l'armée impériale a été supprimée. La constitution japonaise prévoit, je cite, le Japon renonce à jamais à la guerre. Et évidemment, comme ils ont été les perdants, les forces alliées, elles ont toujours une armée. Par contre, le Japon, lui, n'a toujours pas d'armée. Et bon, non, quand même si, une petite. En 54, le Japon s'est doté de forces d'autodéfense, mais cette armée japonaise n'a pas le droit de se battre à l'étranger, même pour aider des pays alliés qui seraient attaqués. Donc, c'est pour ça que Shinzo Abe voudrait changer la loi pour permettre à l'armée japonaise de porter secours aux ressortissants japonais en danger, y compris sur des théâtres extérieurs. Donc, ça va continuer à faire beaucoup débat au Japon et ailleurs.
Ils sont très énervés, ils s'en prennent cette fois à Sony, ce sont les Anonymous.
Leurs armes, les ordinateurs. Leur but, déstabiliser les gouvernements avec le site Wikileaks, vider vos comptes bancaires, paralyser des centrales nucléaires avec des virus. Les pirates.
Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, comment s'en servir? Comment maîtriser ces nouveaux outils de communication?
On les dit capables de détruire n'importe quel système informatique. Pourtant, on murmure aussi que ce sont eux qui les ont construits. On les appelle des hackers.
Bonsoir, alors ce soir dans les chroniques numériques, on va bien sûr commencer par parler de Pirate Bay. Pirate Bay qui est revenu après un mois et demi d'absence. Donc Pirate Bay, on le rappelle, c'est un site de torrent qui permet de... C'est un annuaire de liens torrent, en fait, qui permet de chercher des fichiers que vous voudriez télécharger. Des musiques, des films, des jeux vidéo, des livres parfois, enfin tout ce qui vous intéresse qui est téléchargeable en torrent. Donc ça vous demande d'utiliser un logiciel. Mais Pirate Bay, voilà, c'est un site qui vous permet de trouver ces liens, de les télécharger avec votre logiciel de téléchargement. Et voilà. Et du coup, ce site qui ne met rien en ligne, hein, qui propose seulement aux gens de le faire et à d'autres de rechercher des liens, et bien sûr illégal quand même, parce que c'est très souvent, la plupart du temps, des documents qui sont sous droit d'auteur, en fait. C'est des documents, soit des films, soit des musiques, pour lesquels des producteurs demandent des droits d'auteur. Donc bien sûr, comme tous les sites de téléchargement, Pirate Bay, ben, tout le monde passe son temps à essayer de les faire fermer. Donc en 2006 déjà, il y a un data center qui avait été perquisitionné à Stockholm, et les flics avaient éteint les serveurs de Pirate Bay, enfin ils étaient là uniquement pour ça d'ailleurs. 3 jours plus tard, ils avaient été remis en ligne parce qu'il y a un des cofondateurs qui, à la dernière minute, avait pu faire une sauvegarde. Donc, ça avait pris uniquement 3 jours. Ils avaient tout remis en ligne et voilà, c'était passé complètement inaperçu. Toutes les grosses maisons de production étaient assez déçues. Et là, le 14 décembre, du coup, il y a 2 mois maintenant, il y a eu un raid de la police suédoise et les serveurs ont été saisis. Et voilà, pendant 1 mois et demi, du coup, on n'a pas eu de nouvelles. Pendant 1 mois même, on pensait que c'était assez définitif. Ensuite, il y a eu un compte à rebours sur leur site. Et 2 semaines après, le site est de retour, identique à ce qu'il était avant, avec un phénix pendant les premiers temps à la place du bateau pirate pour montrer qu'il renaissait de leurs cendres. Et voilà. Mais le problème, c'est, on en a déjà parlé, Pirate Bay, c'est assez critiqué depuis quelques années quand même. Là, c'est un peu la goutte d'eau. Il y a plusieurs responsables, des anciens fondateurs, des administrateurs, les fondateurs de Pirate Bay au départ, qui en font pour la plupart plus partie, pour certains sont en prison d'ailleurs. et qui sont en complet désaccord, parce qu'en fait l'équipe de modération et d'administration a été complètement virée au moment de ce retour il y a quelques jours, là, le 30 janvier. Il y a eu une purge complète, ils n'ont plus du tout accès à la modération de Pirate Bay. Il n'y a plus de modération, a priori, en fait, on n'en sait rien. Possiblement, n'importe qui peut publier un lien qui serait un virus ou un malware ou n'importe quoi. On ne sait pas exactement, puisque les modérateurs disent seulement, en fait, nous, on est désolé de vous le dire, mais ce n'est pas notre Pirate Bay, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ils refusent de nous laisser en faire partie. Donc, sachant que ça fait plusieurs fois que... Il y a déjà un des cofondateurs qui avait dit le 15 décembre, juste après l'extinction des serveurs, qu'en fait, il trouvait que c'était pas vraiment un mal, que lui, ce qu'il voyait dans Pirate Bay, l'esprit libertaire et l'âme du site au départ, ça avait complètement disparu depuis quelques années. Du coup, il disait que finalement, il espérait bien que ce soit une fermeture définitive, que le vide que ça créerait, ça permettrait peut-être d'obtenir des nouvelles idées de comment télécharger, que de toute façon, des sites de torrent, il y en avait bien d'autres. Et que lui, quand il avait créé le site avec les autres cofondateurs, il pensait le fermer au bout de 10 ans. Et le problème, c'est que les nouvelles personnes qui possèdent le site maintenant ont décidé pour les 10 ans de faire une grosse fête qui a beaucoup déçu les fondateurs, parce que c'était une fête payante déjà, qui excluait donc forcément tous les gens qui n'avaient pas d'argent, où il y avait des filles à moitié nues qui distribuaient des petits cadeaux aux gens. Voilà, c'était pas du tout l'esprit que eux ils voyaient dans Pirate Bay. Et en plus, ce que dit Peter Sunde, c'est que de toute façon, le site, il était plein de bugs. Il n'y a plus aucune innovation. Et la seule chose qui change, c'est qu'il y a toujours, toujours plus de pubs. Donc voilà, lui, il dit en gros, c'est pas très, très grave si ça reste fermé. Donc là, je pense qu'il est un peu déçu que ça ait réouvert. Mais les autres, les modérateurs et les administrateurs qui se sont fait virer, parlent de relancer un autre Pirate Bay. Donc sous ce nom ou sous un autre, de toute façon ce qui est sûr c'est qu'ils n'auront pas l'adresse originale puisqu'elle est utilisée par le site actuellement. Mais voilà, on espère qu'ils lanceront quelque chose peut-être d'un peu mieux, avec un peu moins de pub si possible et un peu de nouveauté, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que Pirate Bay ça bougeait plus et qu'ils se reposaient sur leur laurier. Mais on rappelle quand même qu'en France, parce qu'on aime bien avoir un train de retard, 10 jours avant le raid, il y a la société civile des producteurs phonographiques qui ont annoncé le blocage de Pirate Bay, ordonné par le tribunal de grande instance. Donc ça a bien fait rire tout le monde quand 10 jours plus tard, le site a de toute façon fermé. Certains ont cru un peu naïvement que c'était peut-être ça, hein, que les producteurs phonographiques avaient obtenu gain de cause. Bon, en fait, c'est au FAI, du coup, aux fournisseurs d'accès, enfin aux principaux fournisseurs d'accès, c'est-à-dire Bouygues, SFR, Orange et Free, d'interdire l'accès, de l'empêcher. Aujourd'hui, Pirate Bay est revenu et aux dernières nouvelles, ni Free, ni SFR, ni Orange, et j'imagine pas Bouygues, mais on n'a pas pu vérifier, n'ont bloqué le site. Donc voilà, on attend de voir ce que ça va donner. En même temps, il y a plusieurs blogs et plusieurs utilisateurs de Torrent qui disent « mais bloquez-le s'il vous plaît », parce qu'on rappelle qu'en Grande-Bretagne, le blocage de Pirate Bay qui a été fait, il avait fait exploser les stats de Pirate Bay qui n'avaient jamais eu autant de visiteurs, et celle du parti pirate aussi, qui avait permis assez facilement de contourner l'interdiction pour y avoir accès. Donc au final, il y a plusieurs personnes qui disent « mais fermez-le ce site, au final, c'est ce qui peut lui arriver de mieux, on y accédera autrement et ça permettra aux gens de connaître des nouvelles choses ». Donc d'ailleurs, si vous voulez accéder à Pirate Bay quand il sera bloqué, parce qu'on imagine que ça va arriver, ce sera bloqué pour 1 an quand ça commencera à l'être. C'est chaque FAI qui va commencer à le faire. Numéricab, si vous êtes chez Numéricab, ne vous posez pas de problème. Ils n'ont pas assez d'abonnés pour devoir faire le blocage. Personne ne leur a demandé de le faire. Donc voilà. En fait, le TGI a demandé au FAI, qui représente 90% des abonnés Internet, qui sont Free, Orange, Bouygues et SFR uniquement, de faire le blocage. Donc si vous êtes chez Numéricab ou sur des FAI associatifs, vous n'avez pas de problème. Sinon, il faut changer de DNS, donc ça, vous pouvez rechercher sur Internet, on ne va pas l'expliquer là. Et sinon, bien sûr, il y a d'autres sites de torrent qui vous permettent de télécharger tout aussi bien. On se passera très bien de Pirate Bay. Autre chose, rien à voir, les drones, on n'a pas trop parlé des drones ici, mais pour le peu qu'on en sait, du coup aujourd'hui les drones, bon, après avoir eu une utilisation uniquement militaire, c'est accessible à tous, hein, vous pouvez aller dans un magasin et acheter un drone si ça vous amuse, ça permet de faire pas grand chose en fait, à part surveiller des gens avec une caméra ou on ne sait pas trop quoi. Je parle pour les publics, pas pour les militaires, bien sûr, qui permettent de tuer des gens, parce que sinon ce serait pas drôle. Il y a un chercheur en sécurité, du coup, qui a découvert une faille qui permet de prendre le contrôle des drones à distance. Donc, En gros, lui, il dégage le contrôleur réel du drone, il reprend immédiatement la main, donc à moins que le drone soit trop près du sol, auquel cas il se crache parce que les moteurs s'éteignent. Sinon, il peut relancer les moteurs et aller faire sa petite surveillance à lui. Et on imagine, parce que pour l'instant, lui, il l'a fait sur un drone public, mais en fait, depuis 2011, on dit qu'il y a des grosses failles et qu'il y a un virus qui est disponible sur les drones militaires. On imagine qu'il sera tout à fait capable, à un moment ou à un autre, de prendre le contrôle de drones militaires, sachant que lui, il pense pouvoir ajouter à son malware qui permet de prendre le contrôle quelque chose qui permettrait de faire passer le malware, en fait, d'un drone à un autre, sans y avoir accès. Donc, c'est-à-dire que s'il croise un autre drone, il peut lui faire passer le malware. Pour l'instant, il a pas intégré cette possibilité-là, mais il dit que c'est complètement possible et assez facile. Donc voilà, ils pourront se contaminer les uns les autres. Et quand ils contamineront les drones militaires, on va bien rigoler, vu que c'est quand même des drones qui peuvent déjà faire de la surveillance très très rapprochée, et puis quand même tuer des gens, mais c'est pas très grave, ça n'inquiète personne, on s'en fiche. Christiane Taubira, elle a fait un communiqué, je sais pas si vous en avez parlé, du coup j'ai pas pu écouter le début de l'émission, elle a fait un communiqué le 16 janvier pour parler de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Donc elle parle, vous en avez parlé ou pas?
Non, non, la semaine dernière, mais vas-y.
Ok, bon, il y a trois points principaux. Généraliser dans le code pénal la circonstance aggravante de racisme, sortir les injures et diffamations du droit de la presse pour les introduire dans le code pénal quand elles sont aggravées par des circonstances liées au racisme, antisémitisme ou l'homophobie. Bon, ça, vous en parlerez, voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle veut confier à l'autorité administrative la possibilité de bloquer des sites et des messages de haine raciste ou antisémite. Donc bien sûr, forcément, quand elle parle de haine raciste ou antisémite, personne ne dit rien, parce qu'on se dit qu'elle pourrait rajouter islamophobe, mais bon, c'est pas uniquement le problème. Personne ne dit rien, parce que bien sûr, tout le monde est d'accord que c'est très mal, la haine raciste ou antisémite, tout ça, tout ça. Le problème, c'est le fait que ce soit une autorité administrative, donc ça veut dire qu'on ne passe pas par un juge, ça ouvre le blocage de tout et n'importe quoi, très rapide, de n'importe quel site qui dérange, en fait. Aujourd'hui, on parle uniquement des sites racistes, mais en fait, qui nous dit qu'à un moment, ils ne peuvent pas décider que tout site qui a... insulter une personne du gouvernement qui n'est ou simplement pas d'accord avec le gouvernement, qui ne paye pas d'impôts, qui n'est pas d'accord. On pense, il y a plusieurs personnes qui parlent de Uber par exemple, qui si les taxis font pression pourraient être bloqués. Enfin voilà, le blocage administratif, ça pose un problème énorme, mais qui bien sûr, encore une fois, comme c'est de la lutte contre le terrorisme, en ce moment on peut dire ce qu'on veut. Du coup, il n'y a pas grand monde qui réagit. Et juste parce qu'on a quand même un petit peu envie de rigoler, la Quadrature du Net, ils ont repris les signes qui peuvent alerter, qui sont sur le site Stop Djihadisme. En fait, vous voyez ce site, c'est un site qui a été lancé avec une petite vidéo qui dit bien « Ah, n'allez pas faire le djihad, blablabla ».
Du gouvernement.
Du gouvernement. Voilà, et ils donnent un petit peu les idées de comment être alerté, enfin, quels signes doivent vous alerter que vos amis pourraient partir faire le djihad. Donc il y a plusieurs choses possibles, hein. Ils se méfient de leurs anciens amis, ils rejettent des membres de leur famille, ils changent brutalement leurs habitudes alimentaires, abandonnent l'école, ils arrêtent d'écouter de la musique. Bon, voilà. Une fois que vous aurez dénoncé tous vos amis dépressifs en fait, qui correspondent parfaitement à la situation, vous pourrez aller lire les dérives autoritaires qui m'ont été publiées par la Quadrature du Net, qui sont les premiers signes qui doivent alerter. La restriction de la liberté d'expression, la banalisation de messages racistes, c'est fait avec des images, et sur le petit pictogramme pour la banalisation de messages racistes, c'est les Roms ont vocation à rentrer en Roumanie ou en Bulgarie, on avait oublié cette phrase, c'était assez drôle. La généralisation et l'extension des surveillances des citoyens, la prévalence d'intérêts économiques sur l'intérêt général, des partenariats avec des régimes violant les droits de l'homme, la répression violente de manifestations, l'instrumentalisation de menaces pour justifier les dérives sécuritaires. Tout ça, voilà. Si ça vous rappelle quelque chose, vous pouvez aller visiter le site de la Quadrature du Net qui propose de réagir un petit peu de certaines façons. La Quadrature du Net, c'est une association qui défend la neutralité du net. On en parlera mieux une prochaine fois d'ailleurs. Mais on en a déjà parlé ici, ce qui demande à ce que toutes les informations qui transitent par le net, toutes les données, elles soient traitées de la même façon, avec la même priorité. Ce qui est pour l'instant le cas, mais bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités que ça change, parce que ça arrangerait beaucoup de monde. Voilà.
Chut, écoutez. À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour les moments qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expliquer.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre.
Petit problème technique, alors je commence ce Canu Info par reparler une énième fois du délit de solidarité, mais en fait parce qu'il y a eu des petites condamnations, il a été revisité ce délit de solidarité qui était attaché à la répression qui a accompagné la fermeture du centre de Sangatte à l'ère Sarkozy-Besson. Donc le changement de président de 2012 avait été suivi d'un changement de la loi qui était censé abolir le délit de solidarité. Donc ce changement législatif restait en deçà de la législation européenne qui est fondée sur le caractère intéressé de l'acte. Donc la solidarité avec des personnes en situation irrégulière est punissable si elle fait l'objet d'une rétribution. Elle ne l'est pas si elle est gratuite, désintéressée. Donc après une période d'accalmie là en France où on n'entendait plus trop parler quand même, on en revient avec l'évolution xénophobe de la politique du gouvernement et une répression de la solidarité avec les populations persécutées par l'État. Donc deux exemples que je vais donner, c'était donc le 27 janvier à Dijon, il y a eu un délit de solidarité. Donc c'est une cinquantaine de personnes qui étaient au tribunal le mardi 27 janvier pour soutenir une personne qui était un militant qui avait un délit de solidarité sur le dos. Il était convoqué au tribunal pour un rappel à loi pour avoir aidé des demandeurs d'asile. Sauf que la solidarité n'est pas un délit. Donc lui, il est militant à la LDH. Il a déclaré à la presse être convoqué donc pour un rappel à loi. Pardon. Ah oui, c'est ça. Il avait en fait fourni 5 attestations d'hébergement à des demandeurs d'asile. Aïe aïe aïe, c'est terrible, mais pourquoi il l'a fait en fait? Parce que pour pouvoir faire des dossiers de demande d'asile, il faut un hébergement, et donc lui, il a fait ça, et bim, le 27 janvier. Sinon, le cour d'appel de Lyon devait statuer aussi le 27 janvier sur le sort d'un prêtre de Saint-Étienne poursuivi pour avoir ouvert une salle paroissiale à des demandeurs d'asile, et il s'est finalement déclaré incompétent, la cour d'appel, donc tant mieux, renvoyant le dossier devant le parquet. Donc histoire qui va continuer, mais en gros, ce prêtre, dans son église du quartier de Montréno à Saint-Étienne, il accueille une cinquantaine de demandeurs d'asile, une quinzaine d'enfants en grande majorité d'origine africaine, voilà, qui cohabitent dans 3 salles différentes, et le tribunal essaye de l'empêcher de faire ça.
Il faut que ça se sache.
Ensuite, un sans-papier de 23 ans qui devait être expulsé vers le Maroc depuis Lyon-Saint-Exupéry a réussi à empêcher son expulsion. Alors, dans un premier temps, pour éviter cette expulsion, il s'est tailladé la main avec une lame de rasoir qu'il avait planquée dans sa chaussette, forçant les flics à le conduire à l'infirmerie pour qu'il lui fasse des points de suture, et aussi en espérant surtout que à ce moment-là les flics disent ah c'est bon, ou l'infirmière ou un médecin dise c'est bon, il est pas apte à voyager, mais les flics ne lâchent pas l'affaire et tentent quand même de le foutre dans l'avion. C'est là qu'il a commencé à se débattre, à se taper la tête sur les parois de l'avion et de péter une dent à un flic de la PAF en lui mettant un coup de boule. Bon, il a finalement été sorti de l'avion, ça c'est pour la bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle qui l'accompagne, c'est qu'il a pris la direction du tribunal pour une comparution immédiate, où il a pris 6 mois de prison ferme et 3 ans d'interdiction du territoire.
Wow.
Il faut que ça se sache.
dont, après ces histoires de double peine, une marche politique là, de personnes sans papier. Donc c'est pour par rapport à tout ce qui se passe en Europe, à Calais, à d'autres endroits en France, en Grèce, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique, en Autriche, à Chypre, au Royaume-Uni. Manifestations, occupations de l'eau publique, grève de la faim, protestations diverses dans les centres de rétention. Et des marches ont lieu depuis 2012. Il y en a une dernière en 2014 qui ont permis de créer des liens entre différentes initiatives. Et donc là, la coordination internationale des sans-papiers, migrantes et réfugiés, qui s'est créée à l'occasion de la marche de 2012, organise une rencontre et une manifestation à Berlin du 5 au 8 février 2015. Et cette marche, d'ailleurs, c'était une marche qui allait qui partait de Berlin et qui avait fait toute l'Alsace et qui avait fini en Belgique. Bref. Et en tout cas, du 5 au 8, un an après, la violente répression des polices espagnoles et marocaines qui a fait 15 morts et 50 disparus parmi les exilés tentant d'entrer à Ciotat. Donc, et la manif aura lieu le 6 février avec comme mot d'ordre Stop War on Migrants. Plus d'infos sur le site 6PM Berlin, cispmberlin.wordpress.com.
Il faut que ça se sache.
Alors, on va faire le bilan de l'opération Moss My Home. Alors, on le rappelle, cette opération était menée entre le 13 et le 26 octobre dans les 27 pays d'Europe et qui avait pour but de rafler un maximum de sans-papiers et de prendre plein d'infos sur comment les gens arrivent à passer les frontières malgré tout le dispositif qui existe déjà, le tout organisé par l'agence Frontex. Alors au total, 19 234 sans-papiers ont été arrêtés, avec à ça faut ajouter à chaque personne arrêtée subissait un interrogatoire pour du coup choper ces fameux renseignements sur ce qu'ils appellent les filières de migration, dans le but de mettre à jour leurs infos pour aiguiser leurs outils de répression contre les migrants. Alors, par exemple, l'actualisation des points de contrôle sur les frontières extérieures de l'Europe, ça c'est qu'un exemple. À ce total, il faut rajouter 250 personnes qui ont également été arrêtées car elles étaient considérées comme passeurs. Voilà, alors on va continuer avec les chiffres, c'est mon dada aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors au total, il y a eu 6002 contrôles qui ont eu lieu sur les deux semaines, 1538 aux frontières extérieures, avec comme conséquence l'arrestation de 9890 personnes. 4462 contrôles à l'intérieur du territoire européen qui a mené à l'arrestation de 9344 personnes. Les 5 pays où il y a eu le plus de personnes contrôlées sont l'Italie, avec 5954 arrestations, l'Allemagne avec 3683, la Hongrie avec 3075, l'Autriche avec 1219 et le Royaume-Uni avec 995. Alors, le bilan de ce type d'opération dans les dernières années, pour les années précédentes, était beaucoup moins important. En 2013, une opération similaire portant le nom de Percunas, alors vous voyez qu'on donne quand même des sacrés noms, avait été menée et avait abouti à l'arrestation de 10459 personnes. En 2012, l'opération Aphrodite avait conduit à l'arrestation de 5298 personnes. Alors on constate que d'une opération à l'autre, on peut voir le nombre d'arrestations quasiment doublé, ce qui n'est pas forcément en rapport avec une augmentation du nombre de migrants, mais sûrement plus à la précision et au ciblage des contrôles, notamment avec les infos qui chopent à chaque fois, là, comme on le disait tout à l'heure. En France, 958 personnes ont été contrôlées, avec énormément de contrôles à Paris, et notamment Gare du Nord, et aussi à Calais. À Calais, voilà, vous comprenez pourquoi, parce que c'est là où il y a tous les... On a parlé plein de fois.
C'est facile pour eux pour faire augmenter les chiffres, entre guillemets.
Oui, c'est ça, ils savent que c'est là où ils sont, et c'est aussi le gros point de passage vers le Royaume-Uni. Mais cette année, la particularité de l'opération Moss My Home, c'est que l'info a été rendue publique avant que ça se passe, à l'insu des autorités. Ce qui n'avait pas du tout été le cas les autres années. Plusieurs initiatives dans toute l'Europe ont été menées pour tenter d'informer les sans-papiers et leurs proches du risque plus important sur cette période. des tractages en plusieurs langues, des collages d'affiches, des rassemblements, la mise en place de numéros de téléphone d'urgence et une carte interactive des lieux de contrôle qui ont été faits pour tenter de contrer leur tactique anti-migrants. Alors, comme à chaque fois, les migrants contrôlés sont, pour leur immense majorité, des personnes venant des pays ou régions en guerre, en conflit, ou alors dans une situation économique extrêmement difficile, et avec quasiment à chaque fois pour ces pays, la responsabilité des pays occidentaux n'est jamais bien loin, que ce soit des pays comme l'Afghanistan ou l'Irak par exemple, où l'Occident est rentré directement en guerre contre eux, ou bien d'anciennes colonies comme le Sénégal, le Mali, le Congo, etc., etc., qui a certes vu ses colonisateurs partir, mais en laissant un sacré bordel derrière eux. Voilà, et ben ça c'était pour le bilan des opérations Mos Maiorum, pardon, c'est un peu chiant à prononcer, et la guerre qu'on fait aux migrants dans nos pays.
Et voilà, ce Canu Info va se terminer puisque nous n'avons pas préparé d'agenda. Mais je pense que c'est pas spécialement un problème parce que bien sûr, vous pouvez aller sur des sites comme rebellion.info pour avoir les infos d'agenda de ce qui se passe cette semaine et les prochaines semaines. Et surtout, vous pouvez écouter Idées Noires qui vont suivre et j'en suis sûre qu'ils vont avoir un petit agenda à vous proposer. Et bien, sur ce... À la semaine prochaine. Et vous voulez...